France Info.
Thomas Negaroff nous a rejoint. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Nicolas.
On va revenir ensemble et on archive sur la manière dont les violences conjugales ont fait leur apparition dans le débat public, dans les médias, sur le vocable utilisé aussi, drame conjugal, crime passionnel, crime d'amour. On a rivalisé dans le passé d'imagination pour qualifier ces crimes et ça en dit long sur la spécificité qu'on a longtemps voulu y voir.
Oui, et pour prendre la mesure de cette spécificité, comme vous le dites, je vous propose d'écouter le tout début d'un numéro des Dossiers de l'écran qui date du 5 novembre. Novembre 1974, un numéro consacré au crime passionnel et il est bien sûr présenté par Alain Jérôme.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le dossier que nous allons ouvrir ce soir est un dossier plein de sang et plein de larmes. C'est en effet le crime passionnel que nous allons évoquer ce soir. Le crime passionnel qui se distingue de tous les autres crimes par le fait qu'il conduit souvent sur le banc des accusés des honnêtes gens.
Le crime passionnel ne serait donc pas un crime comme les autres.
Non, les honnêtes gens. Hein. Et c'est pas qu'un regard social qui le considère comme tel, parce que elle est soi-disant portée par l'amour, le romantisme ou l'honneur, c'est aussi la loi qui l'indiquait, puisque la loi du 18 avril 1832, c'est précis, inscrit les circonstances atténuantes pour ce genre de crime. On en est arrivé là en raison des très nombreux acquittements consécutifs au code pénal de 1791 qui ne distinguait plus entre les différents types de crimes.
Comment expliquer cette clémence qui perdure à travers les époques, et on l'a entendu là encore dans les années 70.
Il y a plusieurs facteurs qui tiennent d'abord au rejet social de l'adultère. Dans les procès du 19e siècle surtout, mais aussi du 20e siècle, c'est souvent l'élément mis en avant par le mari trompé, ou plutôt son avocat, pour justifier et donc excuser son geste. Il faut tout de même rappeler, Nicolas, que jusqu'à la loi du 11 juillet 1975, c'est pas il y a très très longtemps, l'adultère de la femme était sanctionné jusqu'à cette date, pénalement plus sévèrement que celui du mari. Et puis il y a aussi le sentiment que ce crime, qui se tient dans le cadre domestique, il est moins dangereux pour l'ensemble de la société, un crime intime d'une certaine manière.
Et puis changement qui va se poursuivre à partir de la fin des années 80.
Oui, en 1989, le gouvernement lance enfin une campagne de lutte contre les violences conjugales, il était temps, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et pour en prendre la mesure, écoutez ici un extrait du journal de 7h30, présenté par Annette Ardisson sur France Inter, on est le 16 octobre 1989.
Il y aurait 2 millions de femmes battues en France, un phénomène qui toucherait, tenez-vous bien, un foyer sur 10. Évidemment, on se demande toujours ce qui fait que ces femmes restent avec leur mari ou avec leur compagnon. Il existe des associations pour les aider à s'en sortir. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe aussi un groupe d'entraide pour les hommes qui battent leurs femmes, car eux aussi souffrent.
Alors vous avez bien entendu, Nicolas, pour parler des violences conjugales à la radio en 1989, on donne la parole aux hommes qui battent leurs femmes, mais qui en souffrent un peu comme le mari victime d'adultère qui tue sa femme. On ne sait jamais vraiment très bien dans ces histoires qui est la véritable victime.
Et on voit qu'on vient de loin, et même de très loin. La loi a avancé depuis la fin des années 80.
Oui, depuis 1990 et 92, la loi reconnaît le viol entre époux, mais il faudra attendre 2010 pour que la présomption de consentement disparaisse enfin de la loi. Autre évolution majeure de la loi en 1994, la vieille loi de 1832 que j'évoquais sur les circonstances atténuantes des crimes passionnels, elle a disparu, elle s'est même renversée, puisque depuis cette date, il y a donc 25 ans, le crime conjugal est devenu particulièrement grave, puisque la qualité de conjoint de la victime est devenue une circonstance aggravante. Plus tard, en 2006, elle sera élargie aux concubins, pacsés et même aux ex. Reste, Nicolas, à faire évoluer bien sûr les mentalités, mais aussi, précisons-le, à parfois faire changer les expressions employées par les journalistes pour évoquer ces crimes.
Effectivement, Thomas Negaroff, on tâchera tous collectivement d'y être attentifs d'ailleurs à l'avenir.